Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut les fous du volant, j'espère que vous vous êtes bien remis de ce Grand Prix de Hongrie, plutôt prometteur et qui s'est finalement soldé par une victoire incroyable de Max Verstappen. C'est la 12e victoire consécutive de Red Bull, le record de McLaren est donc définitivement battu. Stéphane, on en parlera quand la série s'arrêtera. Hein.
Oui, tout à fait. Rien d'autre à dire.
Exactement. Alors, cette semaine, dans les fous du volant, le déroulement de ce Grand Prix de Hongrie du week-end nous a conduit à nous poser deux petites questions sur le format des qualifications, notamment la gestion des pneumatiques en qualification. On va en parler. Et puis aussi l'emplacement de la pole position. On y reviendra avec Stéphane. Et puis on est à mi-chemin de la saison 2023. Alors en comparant les trois premiers Grands Prix et les trois plus récents Grands Prix, on a essayé de voir s'il y avait des grandes lignes qui se dégageaient. Oui, il y a des grandes lignes qui se dégagent. Et puis on parlera aussi d'Alpine avec... encore du changement dans l'organigramme du constructeur français et du côté des résultats, ça va pas mieux. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec deux questions qui nous ont été inspirées par le déroulement de ce week-end de course sur le Hungaroring près de Budapest. Et on commence, Stéphane, par les qualifications où, pour la première fois, les concurrents se voyaient imposer leur choix de gomme. Ils faisaient la Q1 avec des pneus durs, la Q2 avec des pneus médiums et la Q3 avec des pneus tendres, alors que jusque-là, ils avaient le choix. Alors pour ou contre, qu'est-ce que t'en as pensé, toi?
Alors, d'abord, on a parlé d'un nouveau format. Pour moi, ce n'est pas exactement ça, c'est juste une nouvelle règle. On emploie un petit peu les grands mots pour faire un happening autour de ça. C'est un petit peu piloté par Pirelli, qui désespérait de pouvoir faire parler un peu ce pneu dur qui est utilisé en dernier recours en course et qui n'apparaît quasiment pas en qualification, ce qui est normal. Et là, en fait, c'est juste la Q1 qui change parce que la Q2 reste à peu près la même chose. La Q3, bon, c'est les pneus tendres. Globalement, il y a eu peu de roulage et c'est ça le point vraiment négatif. Les pilotes ont dit on s'empêche de rouler pour garder des pneus pour le samedi, pour faire des tests un petit peu plus pertinents pour la suite. Et dans tout ça, les fans sont perdants. Alors, on nous avait déjà inventé le moins 10 ans. Sur les formats de course avec sprint le samedi, c'est-à-dire une qualif de 45 minutes plus une course d'une demi-heure, ça fait 1h15 de temps de piste le samedi pour les fans au lieu des 2h habituelles. Et puis là, il n'y a pas de roulage le vendredi, on reporte tout au samedi, Hamilton, Verstappen, tout le monde l'a dit, les fans sont perdants dans cette histoire, il faudra certainement ajuster ça. On va y revenir. Alors,
donc toi, ça t'a pas trop plu.
Ça, c'était un petit peu une volonté de Pirelli et à la base, ce système devait être mis en place à la maison chez Pirelli à Imola. C'était le deuxième test qui donc s'est avéré la découverte pour la Hongrie, et il y a un autre test prévu à Monza, encore à la maison pour Pirelli. Ça ressemble d'abord un petit peu, pour moi c'est ça, à une opération de promotion, je dirais, de Pirelli, qui est un partenaire technique de la Formule 1 unique et qui veut aussi être un acteur finalement, parce qu'on cherche à dynamiser les courses et on pensait que c'était la bonne solution. Alors je reprends juste un petit peu l'historique de Pirelli ces 5 dernières années. On nous a proposé des choses un petit peu bizarres parfois, à but un peu promotionnel. Tu te souviens des 7 types de pneus en 2018? Il y en avait de toutes les couleurs. Hein. Je te les cite quand même juste par gourmandise. Super dur, médium tendre, ça on connaît, super tendre, ultra tendre et hyper tendre. Voilà. Sachant que le super dur n'a jamais servi. Voilà. Il y en avait du rose, etc. Bon, voilà, c'était un peu le
super tendre, c'est mon surnom.
C'était un peu le carnaval.
Sur Messenger à l'époque.
Tout à fait. Et en 2022, ils avaient encore refait l'actualité Pirelli en imposant cette fois-ci des pneus à jantes de 18 pouces. Une demande commerciale de Pirelli de longue date pour être plus en conformité avec l'image qu'on a du pneu aussi des voitures d'exception, des grandes routières. Et là, on est un petit peu, on a l'impression qu'on s'ennuie un petit peu et on essaie un petit peu de jouer à chamboule tout. On a cru que ça a marché pour Mercedes, pour Alfa Romeo aussi. Il y en a qui ont flambé le samedi et tout est rentré dans l'ordre le dimanche. Et Fred Vasseur a dit, nous, on a eu des problèmes de notre côté, mais ce format de qualification n'y était pour rien. Russell est sorti en Q1. Là, c'est pareil. On pourrait penser qu'il a été mis en difficulté par l'obligation de passer les pneus durs.
Non.
C'était le trafic.
Ouais,
voilà. Non. Donc, ça fait un peu chou blanc, cette histoire. Et on a mis tout le monde un petit peu en difficulté là-dessus dans les équipes. Et là aussi, c'est pareil. Je ne sais pas si c'est très judicieux.
Moi, j'ai trouvé l'expérience intéressante quand même, dans le sens où ça oblige finalement les équipes à avoir une voiture polyvalente, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit performante finalement sur tous les types de gommes et que peut-être dans certains arbitrages, il va falloir essayer d'aller vers de la polyvalence plutôt que vers une auto qui sait très très bien utiliser un type de pneu et qui en gros va faire deux tours avec un autre type de pneus, parce qu'il faut passer au moins deux types de pneus en Grand Prix et arriver à être dans les clous. J'ai trouvé ça intéressant. En même temps, je me suis demandé, mais je pense qu'il faudra voir à plusieurs reprises, si ça n'enlevait pas une cartouche aussi aux petites équipes. Parce qu'on sait qu'il y a des... alors quand je dis les petites équipes, c'est celles avec des voitures moins performantes qui profitent parfois du fait que les voitures les plus rapides peuvent se permettre de passer des pneus durs ou des pneus médiums sur la Q1 pour garder des trains de pneus tendres sur éventuellement Q2 ou Q3. Et parfois, ça passe pas. Et quand on a, une Williams en pneus tendres, ça fait sortir un gros de la Q1. Voilà, il y a des gros qui sont sortis parce que Russell, effectivement, s'est pris les pieds dans le tapis du trafic. Je demande à voir d'autres événements de la sorte, voir s'il y a vraiment des grandes évolutions qui se sortent de ce système.
Tout à fait. Alors, le discours aussi, parfois, c'est si on est éliminé en Q1 directement, en fait, on peut garder un train de tendre deux pneus pour la course. Ça, je ne sais pas si ça bouleverse les stratégies qui sont déjà bien en place. Les équipes ont leur pack, ont une idée très précise de ce qu'elles ont envie de faire. Moi, là encore, ça me fait penser un peu à la promesse de Max Mosley au début des années 2000, quand on a remis les ravitaillements. Tu te souviens, il a dit une écurie comme Minardi pourra mettre 5 tours d'essence dans sa voiture et puis faire la pole position. On n'a jamais vu ça.
Il était avocat, il défendait sa cause.
On nous vend des choses qui sont illusoires. Alors, ça nous évite certains effets de bord, certainement, parce qu'il y a des équipes qui croquaient leurs pneus qualif en Q1 et en Q2 et qui accédaient à la Q3 sans pouvoir tourner parce qu'elles n'avaient plus de pneus. Donc on voyait sur les écrans le 9e, le 10e sans chrono, mais quand même 9e et 10e sur la grille. Et ça, c'était un dommage fait au spectacle. C'était une sorte de dopage quand même pneumatique parce que on grillait toutes les cartouches et puis elles disaient sans nous. Bon, après en Q3 on se retrouvait avec 8 voitures, parfois moins. Bon, donc je trouve que là c'est vrai que c'est plus équitable, mais ça favorise quoi qu'il arrive les meilleures voitures qui sont capables de chauffer les pneus, les trois types de pneus. Et quand on est en difficulté avec une voiture qui est quand même délicate, ça rajoute encore, ça complique encore. Mais c'est un exercice et les ingénieurs ont dit, globalement, si ça devient une norme, on s'habituera et on dessinera même des voitures en conséquence avec polyvalente pour les trois types de pneus. Bon, circuler, il n'y a rien à voir. Je ne sais pas si c'est un avenir réellement ça.
Le plus gros problème, au moins, ça a fait parler des pneus et c'était quand même la mission principale.
C'est le manque de roulage du vendredi. Et l'autre mission, c'était économiser des trains de pneus pour en fabriquer moins, pour en apporter moins, pour avoir un impact écologique moins important. Hamilton a dit, bon, on monte des pneus pluie et on les met à la poubelle à la fin du week-end. C'est peut-être de ce côté-là aussi qu'il faudrait regarder. La Formule 1, elle est très comme ça. Hein. Elle fait sa publicité sur des choses qui sont très, très vertueuses. Et à côté, elle fait des gaspillages absolument fantastiques.
Oh, tous les gros business voilà, sont comme ça.
On est encore... Je dirais sur cette communication et les grands prix qu'on nous invente sont des grands prix de nuit qu'il faut éclairer donc qui sont très énergivores et on tourne en rond en fait. Bon.
L'autre point qu'on voulait évoquer après ce Grand Prix de Hongrie, eh bien, c'est l'emplacement de la pole position sur la grille de départ parce que c'est Lewis Hamilton qui a obtenu une retentissante pole position à l'issue des qualifications. Hein, Lewis Hamilton qui n'a pas fait le meilleur départ de sa carrière, il faut bien le reconnaître.
Pas raté non plus. Hein.
Non, pas raté non plus, mais il a perdu les 2 mètres, 2 mètres 50 dont avait besoin Max Verstappen pour s'emparer de la première place sans avoir dépassé Lewis Hamilton parce que la pole position en Hongrie est à gauche. Dans le sens de l'évolution sur la piste. Le premier virage est à droite, donc vous vous retrouvez à l'extérieur. Et d'ailleurs, même Max Verstappen a dit après la qualification, je préfère la deuxième place sur la grille de départ.
Ce qui prouve qu'il y a un problème, de toute façon.
Exactement. Voilà. Donc, là, hop, petite lumière qui s'est allumée, et on s'est dit, tiens, il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on fait avec cette histoire d'emplacement de la pole position sur la grille de départ,
Stéphane? Non, mais tout s'est joué là. C'est le fait du Grand Prix. Moi, je me disais, Hamilton, s'il garde sa pole position au premier virage, il faut qu'il tienne 4-5 tours. Le DRS de la Red Bull est puissant. Il fallait qu'il résiste à ça et qu'il sorte le plus rapidement possible Verstappen de sa zone DRS.
Personnellement, je pense que ça n'aura rien changé.
N'aurait rien changé, moi aussi, je crois. Mais là, on n'a même pas espéré 5 tours. Au premier virage, c'était réglé. Et alors, il y a 8 mètres d'écart entre chaque position sur la grille de départ qui suivent. Donc, Hamilton avait 8 mètres d'avance sur Verstappen. Et moi, ce qui me choque un petit peu, c'est quand tu regardes bien les images, Verstappen ne revient pas exactement à la hauteur d'Hamilton avant le freinage au virage numéro 1. Il est à mi-distance, c'est-à-dire qu'il reprend 6 mètres à peu près. Il ne le dépasse pas et pourtant, ça suffit pour s'assurer
le leadership
dans le premier virage. Tout à fait, et qu'il a la corde. Et pour moi, ça, c'est un petit peu le problème. Hamilton, après, il cède au freinage dans le premier virage. Verstappen arrive juste à sa hauteur. Il verrouille, il l'écarte un peu. Et derrière, les McLaren passent. Bon. Et je trouve que ça pose une question de est-ce qu'on ne devrait pas proposer à l'auteur de la pole position de choisir si ça l'intéresse de partir à droite ou à gauche sous la grille de départ. Alors, il y a une constante en Formule 1. J'ai regardé les 22 circuits du championnat, 21 exactement parce qu'on n'a pas encore les datas pour Las Vegas, mais dans la logique, ça devrait être la même chose.
Ça sera un pair et
position, la pole position est toujours sur la trajectoire, la bande passante, on va dire, qu'empruntent les voitures pendant les essais. Ce qui assure en fait la meilleure adhérence, parce que c'est là où les voitures déposent de la gomme. Donc là-dessus, on est OK.
Il y a une forme de logique.
Hamilton était sur une bonne partie, il n'y a rien à dire. D'ailleurs, de toute façon, Hamilton ne s'est pas plaint de cette histoire d'emplacement de pole position après, mais c'est juste Verstappen qui a quand même soulevé le problème.
Ouais, en disant qu'on était mieux sur la deuxième place de la grille que sur la pole position.
Voilà. Et alors, la pole position idéale, c'est quand tu as aussi la corde qui arrive de ton côté sur le premier virage.
Et ça, c'est la majorité
tout à fait.
Non,
du tout. Il y a 5 circuits qui sont dans ce cas-là. Alors là, c'est la pole position rêvée. C'est Miami, Monaco, Montréal, Silverstone et Spa. Pole position à droite à Monaco et à Spa, et à gauche pour tout le reste. Et on vous a mis un petit astérix avec, en plus, un run court.
Oui.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Monaco, par exemple, quand tu as la pole à droite, quand tu as la corde qui est du premier virage à droite et quand tu as le run le plus court de la saison, 114 mètres, tu es sûr de ton coup, tu vires en tête au premier virage. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à Monaco depuis 2003. Sans interruption, le dernier qui a piégé le poleman, c'était Coutard avec Montoya en 2002. Ça veut dire que tu as des pole positions qui sont meilleures que d'autres sur le circuit.
Ils sont plus bankable que d'autres.
Tout à fait. Alors, il y a d'autres circuits. Alors là, un run court, c'est intéressant. On peut considérer que c'est à peu près moins de 200 mètres. Là, il y avait 444 mètres sur la Hongrie. Ça veut dire que ça joue moins là-dessus. Parfois, c'est même beaucoup plus. Mais il y a des... Il y a des runs qui sont assez courts, mais où la pole position n'est pas du bon côté. Je cite Bakou, Singapour, Sao Paulo et Abu Dhabi. Et là où, si tu te loupes, t'es mort. Parce que celui qui est à côté a la corde, et là, il freine, c'est réglé. Donc, je trouve que, franchement, on devrait se pencher sur ce cas-là. On crée beaucoup de choses. En Formule 1, on a encore vu l'auteur du meilleur tour en course qui a un point. Ça ne sert plus à rien oui. depuis longtemps, de toute façon. Et ça apporterait une petite part de stratégie, je trouve.
Alors, j'ai réfléchi à la chose et je me dis plutôt que demander au poleman, parce que forcément, à un moment ou à un autre, si tu demandes à un homme ou à un pilote, pour être non-genré, forcément... ça va créer un problème à un moment ou à un autre. Le côté de la pole, ça nous ramène Prost Senna 1990. Ce que je pense, c'est peut-être que l'association des pilotes devrait se réunir avant le début de la saison et établir, voilà, sur tel circuit, on veut que la pole soit à gauche, sur tel circuit, on veut que la pole soit à droite. Seule exception, les circuits sur lesquels on n'a jamais roulé, les nouveaux circuits, où là, on dit à l'association des pilotes, on se réunira le vendredi soir, enfin en tout cas la dernière séance libre avant la qualif, pour déterminer avant la qualif de quel côté sera la pole. Et après, c'est terminé, c'est gravé dans le marbre, on n'en parle plus. Mais c'est les pilotes qui sont les mieux placés pour savoir finalement quel est le bon emplacement pour une pole position. Parce que c'est peut-être pas forcément du côté, à l'intérieur du premier virage, mais eux le savent. Donc voilà, il faut effacer cette petite bizarrerie qu'il y a sur certains circuits où finalement tu te dis, c'est mieux d'avoir une place paire sur la grille de départ parce que ça fausse un petit peu tout l'enjeu de la qualification.
Oui, alors j'ajoute que si c'est décidé avant le début de la saison, ça n'est plus un élément stratégique et ça n'est plus à la discrétion de l'auteur de la pole position qui peut quand même avoir un intérêt. Alors j'ai regardé depuis un an exactement, il y a 7 pilotes en pole position qui ont perdu leur avantage au premier virage, dont 6 en fait, on voit bien, qui n'étaient pas du bon côté, qui n'étaient pas côté corde. Voilà. La seule exception, c'est Silverstone. Au Grand Prix précédent, la Hongrie, ça veut dire que tu es quand même dans une situation précaire. Alors, il y a un cas particulier dans ces 7 cas, c'est Singapour l'année dernière. Le départ est donné sur une piste mouillée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a plu, que la piste est verte, c'est-à-dire qu'elle s'est dégommée. Quand il pleut sur une piste, en fait, la gomme n'adhère plus autant sur le bitume et les niveaux de grippe s'égalise. Voilà, oui. S'égalise.
Ou même s'inverse. Oui.
Tout à fait. Et la piste aussi est nettoyée dans la nuit, après chaque journée. Et là, Leclerc s'était fait coincer par Pérez, qui avait la corde, qui avait autant de grippe que Leclerc. Et il suffit d'une petite hésitation et tes 8 mètres sont effacés. Mmh. Là, tu vois la pole position partir tout de suite en fumée. Donc, moi, je trouve que le samedi, tu pourrais quand même choisir, spécialement si tu sais que le dimanche, il va pleuvoir, et t'essaies d'avoir le meilleur avantage possible. Alors, en Belgique, ça ne va pas se poser parce que la pole position est à droite, premier virage à droite, run particulièrement court, je crois que c'est 163 mètres, c'est le deuxième plus court de la saison, troisième. Donc là, l'affaire est réglée. J'ajoute quand même quelque chose que j'ai remarqué à la fin des essais libres 3 qui était extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. Hamilton, il fait le meilleur temps et il est persuadé de pouvoir réaliser la pole position. À la fin de cette séance, en fait, les pilotes arrivent sur la grille et font des tests de départ. Et si tu regardes bien, Hamilton, il est garé d'abord sur la rangée intérieure, pas la colonne de la pole position. Et normalement, les pilotes ne bougent pas de cet emplacement et démarrent les uns après les autres. Sauf que là, Hamilton, tu vois, tu sais ce qu'il fait ? Il quitte cet emplacement de la rangée paire pour aller sur la rangée impaire et sur l'emplacement de la pole position. Et normalement, tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça parce que si tu sais que Verstappen va à 99% de chance de faire la pole, tu ne lui donnes pas de la gomme supplémentaire sur son emplacement. Donc Hamilton avait pensé à tout, mais presque à tout. Mm.
Le deuxième sujet qu'on voulait évoquer dans les fous du volant post-Grand Prix de Hongrie, eh bien c'est une sorte de bilan, puisqu'on on a couvert 11 des 22 Grands Prix qui sont au programme de cette saison. Et alors on s'est plié à un petit exercice, on a repris le classement au classement des constructeurs après 3 Grands Prix. On a réalisé un classement sur les 3 derniers Grands Prix, on a essayé de voir quelles étaient les grandes lignes qui s'en dégageaient. Alors bon, pas de surprise, hein, Red Bull avait marqué le plus grand nombre de points sur les 3 premiers Grands Prix, Red Bull a marqué le plus grand nombre de points sur les 3 Grands Prix les plus récents. Mais le cas de Aston Martin est quand même assez frappant, Stéphane, c'est le premier cas sur lequel on va s'arrêter. Aston Martin qui avait marqué 65 points lors des 3 premiers Grands Prix et qui n'en a marqué que 30 sur les 3 plus récents Grands Prix, moitié moins de points par rapport au début de saison. Fernando Alonso a terminé 9e en Hongrie devant Lance Stroll 10e. Et Mike Crack, le patron de cette équipe Aston Martin, a dit c'est un retour à la réalité. Voilà, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de on se cherche des excuses et ça ira mieux la prochaine fois. Non, voilà. Mike Crack, finalement, il prépare presque son équipe à des temps un petit peu plus compliqués. Alors là, je parlais des 30 points inscrits sur les 3 derniers Grands Prix. Seulement 9 sur les 2 derniers pour ouais. Aston Martin, qui va devoir résister à Ferrari pour la 3e place des constructeurs et qui risque surtout de voir revenir aussi McLaren, hein, qui n'a que 97 points de retard à la vitesse où ça évolue chez McLaren. Et on va s'y intéresser aussi rapidement après. Ça risque de revenir vite.
Alors Alonso, c'était 6 podiums sur les 8 premières courses, mais il y avait eu un petit coup de mou à Bakou.
Oui.
Et Alonso avait dit à cette occasion, il y en aura d'autres, on ne sera pas fort sur tous les circuits, mais encore fin mai, là, il était persuadé que la voiture était devenue assez polyvalente.
Et surtout, il avait mis le Hungaroring comme un des circuits sur lequel Aston Martin oui. pouvait essayer de s'imposer. On est très très loin du compte.
Oui, tout à fait. Là, c'est comme tu dis, c'est un retour à la réalité. Et puis, un changement de discours aussi, tu as cité Mike Crack, qui nous disait quand même, courant avril-mai, de toute façon, vous verrez des évolutions sur l'Aston Martin quasiment à toutes les courses, mm-hmm. tous les week-ends, développement agressif, et les autres se posaient la question, mais comment vont-ils faire ? Nous, de toute façon, on ne sait pas faire. Voilà, sur le budget cap, sur l'évolution même d'une voiture, on ne peut pas rajouter des choses pertinentes, ou en tous les cas, c'est changer la voiture en permanence, et ça, c'est un autre danger,
oui.
parce que tu n'as pas une base de repères. Là, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un gros package sur les 4 ou 5 courses, on l'expérimente, on apprend à le connaître, et après, on sait comment le modifier. Eux, Aston Martin, ils étaient plus forts que tout le monde. Bon, là, c'est retour à la réalité, effectivement,
exactement.
Depuis 3 Grands Prix, c'est assez brutal. Il y a Alonso qui a dit après Silverstone, bah, de toute façon, en fait, nous, on est les grands perdants de l'histoire sur les pneus durs à la structure renforcée. Alors, il y a Sainz qui a dit, nous, on n'a rien vu. Alors, bon, normalement, on devrait voir un petit quelque chose. Donc, c'est peut-être inquiétant du côté de Ferrari. Mais Alonso s'est fait recadrer sèchement par Mike Crack en disant non. Il ne s'agit pas de ça, il faut simplement que maintenant on apporte des évolutions. Les autres ont fait un meilleur travail que nous. Au moins, c'est honnête, c'est bien de ce point de vue-là. C'est quelqu'un qui était à l'extérieur de la Formule 1, Mike Crack, et qu'on n'a pas tellement pris au sérieux au départ, qui a été mal accueilli. Là, maintenant, il a remis un peu les choses en place. Il a le discours de la vérité, et c'est la meilleure chose à faire pour comprendre les faiblesses et avancer. Je trouve que là-dessus, maintenant, ils ont le bon diagnostic, à savoir maintenant quand est-ce qu'ils vont apporter les prochaines évolutions. Alonso a dit, on va voir ce qui se passe sur le dernier Grand Prix à Spa, qui peut être un peu particulier et quasiment illisible parce que normalement, il pleuvra les 3 jours. Et Alonso a dit, on verra après ce qui se passe après la pause.
Alors, justement, on cherche des explications hein, sur cette baisse de régime de Aston Martin. Et Stéphane, c'est pas que du vent. Ça, c'est un joli lancement.
Je te vois venir. Tout à fait. Parce que effectivement, Aston Martin, dans ce déclassement, n'a pas fait une très, très bonne affaire non plus parce qu'ils vont vivre avec ce début de saison jusqu'à la
qui était presque trop beau en fait, qui va leur coûter cher.
Tout à fait, parce que il y avait un point important, un point tournant du championnat, c'était après le Grand Prix du Canada. Au soir du Grand Prix du Canada, on regardait le classement au championnat des constructeurs, et c'est là qu'on refaisait la grille des allocations de temps de soufflerie et de ressources en soufflerie pour la deuxième partie de saison. En clair, les équipes qui n'avaient pas performé l'année dernière avaient des temps de soufflerie plus importants pour le début de la saison. C'est une sorte de rattrapage et de compensation. Je trouve que c'est un système vraiment intelligent. Sur un principe simple, c'est qu'on prend les écuries de 1 à 10 et on donne 100% de ressources à la septième équipe du championnat. Ça. Et cette septième équipe était Aston Martin. Voilà. Et ensuite, quand on remonte d'un cran vers l'élite du classement, les équipes perdent 5% à chaque fois. Alors, ce qui mettait Red Bull théoriquement à 70%, on sait qu'ils en ont 63% parce qu'ils ont une sanction, ça c'est autre chose. Mais Aston Martin avait depuis le début de la saison 100%. C'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont sorti des packages performants. Et après le Grand Prix du Canada, ils étaient 3e au championnat et donc ils ont perdu 20%. De ressources en soufflerie.
Ce qui, une équipe qui est en montée en régime, ouais, c'est très, très important.
Bah là, ça va être un coup d'arrêt aussi spécialement pour eux. Ça va se voir, je pense, à un moment. Et Gilles, ces 20% représentent en fait la plus grosse perte pour une équipe sur le plateau. Donc, en fait, ils vont subir par rapport à tout le monde.
Exactement. Alors, y a des chiffres intéressants sur cette modification des ressources en soufflerie. Par exemple, McLaren, qui, elle, va voir encore son temps en soufflerie augmenter parce qu'ils avaient fait un début de saison très 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 compliqué. Finalement, eux, ils sont en train là de récolter les bénéfices en quelque sorte de leur début de saison compliqué. Alors, il y a ça, il y a la ressource finalement technique, il y a aussi la ressource financière. Et là, d'un seul coup, t'évoquais le fait que Mike Rack avait annoncé qu'il y aurait des nouveautés tout le temps, mais c'est pas de ce côté-là en fait que ça pioche du côté de chez Aston Martin. On a peut-être d'autres soucis sur les installations.
Alors, sur les installations, sur le budget cap, tout oui, simplement, où il y a trois équipes qui seraient pointées du doigt, Red Bull, Mercedes et surtout Aston Martin pour des dépassements de budget l'année dernière. Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'on parle d'une partie extérieure au budget, d'une allocation des dépenses permises de 36 millions d'euros sur 4 ans en tout. Affecté en fait à la modernisation.
Modernisation, on va y arriver. Il n'y a pas d'anti-patinage non plus pour nous.
Affecté à la modernisation des équipements. Là, Williams pose la question justement. Alors, ça s'appelle le CAPEX. Voilà. C'est les budgets extérieurs au fonctionnement même de l'équipe. C'est de la modernisation. James Wolff, le boss de Williams, a dit, nous, on n'a pas investi depuis 30 ans. On a un énorme retard. Il essaie de faire gonfler ce budget de 36 millions d'euros qu'aurait largement dépassé Aston Martin. C'est pour ça que le gendarme financier de la FIA est en train de regarder ça attentivement et on devrait avoir les résultats un petit peu plus tôt que l'année dernière. Ils sont prévus normalement pour la fin du mois d'août à peu près. Et c'est là qu'on saura si Aston Martin se fait taper sur les doigts, s'ils ont éventuellement une pénalité financière ou des restrictions en termes de soufflerie, si Red Bull aussi en fait partie, si Mercedes aussi, qui a eu beaucoup besoin de modifier sa voiture,
ah oui,
fait partie de tout ça. Mais là, ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. On ne connaît pas la nature exacte des infractions. Ce sont des soupçons. Mais Aston Martin va peut-être déchanter aussi à ce niveau-là.
L'autre équipe à laquelle on voulait s'intéresser, c'est Ferrari. Parce qu'alors là, c'est un petit peu en trompe-l'œil, mais Ferrari a quasiment doublé son nombre de points inscrits sur les trois premiers GP, en tout cas sur les trois plus récents Grand Prix par rapport aux trois premiers GP. Ils en avaient marqué 26 en début de saison, 45. Ils sont quand même quatrième au classement des constructeurs. Si on revient là notamment sur ce dernier Grand Prix pour Ferrari, on a le sentiment que alors il y a eu la pénalité parce que Charles Leclerc s'est un peu loupé en rentrant dans la voie des stands, il a été pris à 80,7 km/h, la règle est la règle, on est pénalisé, finalement ça ne lui a pas coûté tant de choses que ça, hein. Fred Vasseur disait ça, on n'y était pas. En gros, on a le sentiment que cette Ferrari, depuis le début de la saison, elle ne progresse pas. et que de toute façon, même si elle était plus performante, on a vu, alors je parlais de l'entrée dans la voie des stands qui a posé problème pour Charles Leclerc, il y a eu aussi, je crois que c'est 7 secondes de perdu lors de l'arrêt du Monégasque, et on a le sentiment que de toute façon, même si la voiture progressait, de toute façon c'est dans l'exécution que la Scuderia est encore en difficulté, on n'arrive pas à s'en sortir.
L'exploitation aussi, là apparemment les médiums du côté de Sainz, c'était une catastrophe, on doit pouvoir faire fonctionner ce pneu chez Ferrari, parce qu'autrement rien ne sera possible. On patine, c'est vrai. On peut remonter en fait à la naissance de cette voiture, mais en 2002, puisque en 2022, puisque la 2023 est un modèle dérivé. Et on était parti très très fort et on s'essouffle de plus en plus en termes d'évolution, de capacité à mettre des pièces qui vont tenir le rythme du développement des autres voitures. Alors, il y a un petit bémol, c'est que Red Bull a mis des pièces, mais ce n'est pas super convaincant. Ce n'était pas super convaincant en Hongrie. On verra ce qu'il en sera sur les autres circuits. Mais Ferrari ne tient pas un rythme de développement supérieur aux autres. Même, on commence à se muscler chez Mercedes. Alors, pour moi, il y a quelque chose qui a changé fondamentalement. C'est par rapport à l'année dernière, la gouvernance Mattia Binotto, son dada. C'était la puissance moteur. Et ils nous installaient des nouveaux moteurs à tour de bras parce qu'ils obtenaient en fait des modifications permises sous couvert d'amélioration de la fiabilité qui était en fait pour ensuite améliorer les performances. Et
on en reparlera sur le cas d'Alpine d'ailleurs.
Ouais, on avait passé un nombre mais incalculable. Enfin, c'est toujours calculable et quantifiable parce qu'il y avait des chiffres très, très précis. Mais Ferrari avait été un gros consommateur de moteurs. Et y compris aussi chez Alfa Romeo du côté de Bottas, ça cassait entre guillemets en permanence. Et là-dessus, maintenant, si tu regardes bien, il n'y a plus ces questions-là d'abus, entre guillemets, parce qu'ils ont rajouté aussi un bloc moteur pour tout le monde. Et Ferrari ne joue plus à ce jeu-là. Ça veut dire qu'ils n'activent plus ce levier de la puissance. Et tout est dans le châssis. Et Enrico Cardile a fait sa première voiture réellement cette année sans Mattia Binotto. Enfin, Mattia Binotto est parti en fin de saison dernière. Et maintenant, c'est là où on le voit. C'est ce qu'on avait dit, hein. En début de saison, on verra comment est-ce que ça se passe chez Ferrari parce que Mattia Binotto est parti. Sont-ils orphelins de Mattia Binotto? Pour l'instant, je pense que oui, parce qu'on attend aussi des recrutements qu'on nous annonce chez Ferrari qui n'arriveront pas tout de suite et qui n'auront pas leurs effets avant certainement 2025.
Là, on est vraiment
2024. Ça veut dire que je pense qu'on est sur une pente descendante et qu'on va y rester.
On est vraiment là, finalement, dans la période peut-être la plus compliquée pour Fred Vasseur et pour Ferrari, où on ne voit rien finalement se passer. Je suis absolument convaincu qu'en coulisses, il se passe beaucoup de choses. Tu nous as parlé de recrutement. Forcément, c'est à mon avis la plus grosse pile que doit avoir Fred Vasseur sur son bureau. Et le temps va commencer à manquer parce que, comme tu le disais, recruter quelqu'un aujourd'hui, ça veut dire qu'il a ce qu'on appelle le garden leave dans le paddock, autrement dit la clause de jardinage, un certain temps où les ingénieurs importants, les responsables de toutes les équipes de Formule 1, finalement, n'ont pas l'autorisation de passer d'une équipe à l'autre. Ils doivent observer un temps durant lequel ils ne travaillent pas pour éviter qu'on parte avec les secrets d'une équipe et qu'on les reporte directement quelques semaines plus tard sur la voiture d'à côté. Donc là, voilà, je dirais, on est vraiment dans le moment le plus compliqué. Et chez la Scuderia, c'est encore plus compliqué parce qu'on sait que la presse italienne est vraiment très, très véhémente, que les tifosi, eux, veulent voir des choses. Et là, je pense que c'est encore plus difficile. Il y a en sous-main également, on en a parlé, hein, la renégociation des contrats avec Charles Leclerc, avec Carlos Sainz. Et tout ça, ça fait que cette équipe, elle montre de nouveau des signes, je trouve, de fébrilité qui avaient un petit peu disparu et qui refont surface, là, ce problème sur les stands. Je trouve que c'est le symptôme d'une équipe qui, de nouveau, est en proie à une sorte de fébrilité. Et malheureusement, c'est inévitable qu'on y soit pendant un long moment, je pense.
Oui, alors bonne nouvelle quand même. Par rapport au classement de la fin de saison dernière, Ferrari était deuxième du championnat. Ils étaient quatrième, ils le sont toujours après le Grand Prix du Canada. Ça veut dire qu'ils ont gagné 10% de ressources de soufflerie. Alors, quand on entend ressources de soufflerie, c'est du temps en soufflerie, c'est des sessions. Et c'est aussi la puissance du matériel informatique que tu peux faire tourner en simulation sur ordinateur. Tout est compté, la puissance des processeurs, combien tu fais tourner d'ordinateurs, c'est un truc extrêmement complexe. Mais là-dessus, ils ont gagné quand même du temps, des ressources. Ils en avaient bien besoin parce que ça, là, il faut sortir maintenant des pièces. Et alors, d'ailleurs, Fred Vasseur était très content du package, je crois qu'ils ont sorti, c'était au Canada, et qui n'a pas donné des résultats, je trouve, moi, extraordinaires. En tous les cas, la voiture est encore irrégulière. On s'est peut-être vu un peu trop beau, on a tiré des conclusions un peu rapides. Et là, maintenant, quand une Ferrari est 7e ou 8e, on trouve ça normal.
Ouais, clairement, c'est là hein, que ça pose vraiment un souci. Bah voilà, 7e et 8e, c'est le classement de Charles Leclerc et de Carlos Sainz. Sur ce petit tableau qu'on s'est préparé et que vous pouvez voir si vous regardez la vidéo, bah forcément, la modification la plus importante, c'est celle de McLaren, qui a inscrit 70 points lors des 3 derniers Grands Prix, pardon, alors qu'ils en avaient inscrit que 12 lors des 3 premiers Grands Prix de la saison. Bah là, forcément, on a vu Norris assez incroyable sur ce Grand Prix, encore une fois, en Hongrie. Et ça aurait pu être encore mieux pour McLaren. Apparemment, c'est ce sur quoi on a communiqué du côté de chez McLaren. Oscar Piastri a eu un problème de plancher qu'il aurait endommagé en passant sur un vibreur. Et c'est ce qui aurait expliqué la perte de place du jeune Australien.
Je crois qu'il l'avait déjà fait vendredi. Donc ouais. Il est un petit peu sujet à ça.
Bon, et qui termine jeune. À la 5e place. Bon, ouais. En plus, je pense que les conditions très très chaudes, très très difficiles sur ce circuit de Hongrie, quand on est un jeune pilote, c'est un petit peu plus difficile à encaisser que quand on a de la bouteille et du coffre. Bon, McLaren, la seule chose qu'ils ont perdu en Hongrie le week-end dernier, c'est le record oui. Des 11 victoires consécutives qu'ils partageaient avec Red Bull. Ça y est, maintenant, c'est de l'histoire ancienne. Mais ils ont beaucoup de choses encore à gagner là, d'ici la deuxième moitié de saison.
Ah, puis ils se surprennent eux-mêmes. Je te cite ce qu'a dit Norris. Ce podium, ce n'était pas prévu.
Oui.
La Hongrie, c'est un circuit plus lent, sans haute vitesse. Il y a les virages numéro 4 et 11 qui sont plus rapides, mais rien à voir avec Silverstone où on passe à fond de 8 dans Copps et dans Stowe. C'est vrai que c'est un petit peu l'opposé. Et il a dit carrément, nous avons sous-estimé nos espoirs, nos attentes. C'est ça qui est incroyable. Maintenant, ils veulent viser encore plus haut. Nous ne nous attendions pas à être aussi bons. Mais il précise que le bitume a été particulièrement adhérent et que ça, c'est bon pour la McLaren.
On va passer au dernier sujet qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui, cette Alpine. J'ai envie de résumer la situation pour Alpine. Mauvais moment, mauvais endroit. J'ai un petit peu inversé l'expression, mais mauvais moment parce que on s'est séparé du côté de chez Alpine de Laurent Rossi, hein, qui était le directeur général d'Alpine, poste auquel il avait été nommé en janvier 2021. Il a été débarqué le 20 juillet dernier. Et on a le sentiment d'être dans un cycle infernal. C'est le mot qu'a employé Pierre Gasly. Je reviens sur ce Grand Prix de Hongrie avec Ocon 12e sur la grille, Gasly 15e. Déjà, on est quand même très très loin des espoirs. On nous avait dit que la Hongrie était plutôt favorable à l'Alpine. Et puis ce départ manqué de Guanyu Zhou qui, pour essayer de se rattraper, freine plus tard. Freine trop tard, vient percuter Daniel Ricciardo, qui vient percuter Esteban Ocon, qui vient percuter Pierre Gasly. Deux abandons dans l'histoire, je vous laisse deviner lequel, mais bon, vous avez forcément vu le Grand Prix. Ocon et Gasly sur le carreau, deuxième résultat blanc consécutif, ouais. Deuxième double abandon consécutif pour Alpine. Et d'ailleurs, au niveau des abandons, on va commencer dans les chiffres qui font mal, Stéphane. Dans les abandons, Alpine est loin devant tous les autres.
Alors malheureusement, Alpine mène largement ce championnat des abandons, ce triste championnat des abandons, avec 6 voitures retirées. non pas pour un ou deux doubles abandons, mais trois carrément, et aucune autre équipe du plateau n'a enregistré un double abandon cette saison. C'est absolument dramatique. Et suivent derrière As avec 4 retraits, Williams 3. Et puis, il y a 3 écuries qui ont le score parfait, qui ont eu à chaque fois les voitures à l'arrivée. Red Bull, McLaren et Alfa Romeo. Alors, bah, ça, on voit que Red Bull est, pour Red Bull et McLaren, c'est payant. Il n'y a pas d'histoire, il faut arriver. Autrement, on ne fait rien dans tout ça. Je rapprocherai ça des abandons d'Alpine l'année dernière. Il y avait 8 abandons, dont 7 techniques.
Oui.
Voilà. Donc,
c'était la politique, on avait dit, on met la priorité sur la performance, quitte à avoir des problèmes de fiabilité, on
oui,
assume
oui, oui.
Et on va fiabiliser au fur et à mesure du temps.
Et là, cette année, il y a eu 6 abandons, dont un technique. C'était au Grand Prix de Grande-Bretagne sur de l'hydraulique. Enfin, on n'est plus dans les mêmes problèmes de moteur de l'année dernière, de préparation, de choses qui polluaient complètement l'évolution de l'équipe. Quoique, il y avait eu des choses. Enfin, Laurent Rossi avait tapé du poing sur la table à Bakou pour dire qu'il y avait une forme de dilettantisme
oui,
dans l'équipe.
C'était des mots très forts. Oui, c'était très très impressionnant. Et c'est arrivé, ça, ce recadrage de Laurent Rossi est arrivé il y a quelques semaines après. À peine, hein, tu parlais du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Il avait mis un coup de pression à Otmar Szafnauer. Et finalement, c'est Szafnauer qui reste. Laurent Rossi est remplacé par Philippe Krief, qui est et qui va rester d'ailleurs directeur de l'ingénierie et de la performance chez Alpine.
Alpine Cars.
Oui, Alpine Cars. Oui,
côté alors, constructeur. Hein,
voilà, c'est ça, côté constructeur.
L'industriel et le sportif.
Et alors justement, du côté sportif, on va faire rentrer dans l'équation, en tout cas on va faire monter au front maintenant Bruno Famin, qui a été désigné vice-président de la branche sportive. Ça, c'était le 10 juillet, donc en gros une dizaine de jours avant que Laurent Rossi soit débarqué. Bon, tout ça a été forcément prévu. Là, on voit de nouveau une grosse réorganisation. Finalement, il y a quand même beaucoup de changements encore dans cette équipe. Et les regards commencent peut-être à se porter maintenant vers le directeur technique, Stéphane, parce que la voiture, elle n'est pas au niveau de performance qu'on l'attend.
Mais alors, on l'a vu spécialement en Hongrie. Il y a eu podium dans des circonstances particulières à Monaco. Laurent Rossi avait roué dans les brancards juste après, donc là, ça avait un peu surpris. Bon, on dit qu'il paierait sa communication, mais Horner n'a pas la salongue dans sa poche, Wolf non plus. Mmh. Enfin, il faut aussi être, entre guillemets, je dirais, hein, une grande gueule hein, en Formule 1 pour que
oui,
ça,
dire
ça
choses,
avance et dire les choses.
Choses,
tout simplement. Donc ça, il l'a fait. Moi, je suis le défenseur de ça. On l'avait reçu dans Les Fous du Volant, vraiment une émission exceptionnelle de 45 minutes où il avait vraiment décortiqué ouais. sa mission, son travail. Et il avait été un communicant extraordinaire de ce point de vue-là. Mais il est cash, c'est vrai.
Ouais.
Bon, mais il y en avait besoin. Il y en avait besoin parce qu'il y avait eu des manquements quand même. Il soulignait des manquements qui n'étaient pas dignes, je dirais, d'une écurie ambitieuse. Hein, ça peut arriver à tout le monde, mais il y avait une série quand même assez malheureuse. Bon, et maintenant, en fait, on a changé de cap à la direction d'Alpine Cars. Donc, c'est plus Laurent Rossi, on nomme un vice-président parce que le président reste Luca De Meo, le président de tout Renault, du groupe Renault. Voilà, et aussi du sportif. C'est pour ça que Bruno Famin est vice-président de Motorsport. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, je dirais que ça laisse un peu les coups des franches à Otmar Szafnauer parce que Philippe Krief, qui est nommé du côté du constructeur Alpine Cars, ne va pas mettre son nez dans l'organisation de l'écurie de Formule 1. Soit il faut le faire à fond, complètement, soit il ne faut pas du tout le faire.
Et laisser la main à Bruno Famin.
Laurent Rossi avait dit que dans un premier temps, il ferait les deux parce qu'il s'intéressait à la Formule 1. Il a fait ça pendant 2 ans et demi. Il a vraiment réorganisé l'écurie de Formule 1. Et puis il a dit maintenant, là vraiment, il faut lancer le réseau. Il y a beaucoup de modèles de la nouvelle gamme à lancer pour Alpine. Donc il avait pris du recul en début d'année. Très bien. Mais maintenant, moi, je trouve qu'il manque une impulsion au niveau de la direction technique. Ça devient évident. Ça devient évident, franchement, parce que qu'est-ce qui nous choque ? Ce qui nous choque, c'est l'évolution d'Aston Martin et de McLaren, les bons qu'ils ont été capables de faire à parité de budget, d'organisation. Maintenant, on est sur un petit marché des ingénieurs, mais ils se débrouillent manifestement mieux je dirais pour l'instant qu'Alpine. On nous dit qu'il y a des recrutements qui vont arriver alors chez Ferrari, etc. Tout le monde a des choses fantastiques dans ses cartons, mais on ne voit pas grand-chose. Et sur le plan simplement des directeurs techniques, moi, je remarque une chose, Gilles, c'est qu'on est sur un métier qui est assez précaire,
ah,
volatile.
Oui, ça, c'est clair.
Si on regarde bien, les directeurs techniques qui sont responsables, qui sont les pairs des voitures de 2023. Celui qui est en place depuis le plus longtemps, c'est
bien.
Pierre Vacher. On a reçu il y a très récemment.
2-3 numéros. Ouais.
Voilà. Tout à fait. Qui est arrivé chez Red Bull, nommé directeur technique en 2018 et qui a produit sa première voiture en 2019. Derrière, on a des gens comme Jody Eggington chez AlphaTauri. Et puis, on a Pat Fry qui est arrivé, qui a été nommé en 2020, donc qui a fait sa première voiture en 2021, une voiture gagnante. Mais depuis, c'est vrai que c'est la stagnation. Par rapport à Pat Fry, ce qui me surprend un petit peu, il est connu comme le loup blanc. Il est passé par McLaren, par Ferrari. Il a un CV, mais long comme le bras. Très bien. Mais j'ai bien regardé, en fait. Il a surtout eu des postes d'ingénieur en chef à l'ingénierie et pas de concepteur, pas de directeur technique, pas de chef designer. Et c'est peut-être là où il y a la faiblesse. Je dis ça très prudemment, mais il forme un duo avec Matt Harman parce qu'il est directeur technique en chef et Matt Harman est directeur technique. Et là aussi, c'est pareil, il a été nommé directeur technique en 2022. Donc, on est sur un tandem assez jeune et on a chez Aston Martin, par exemple, quelqu'un comme Dan Fallows qui est arrivé avec toute son expérience de Red Bull et qui a tout révolutionné. Et chez Ferrari, on parlait des difficultés de Ferrari. Eh bien, Enrico Cardile est en poste juste depuis cette année. Et c'est peut-être pour ça qu'il manque aussi de souffle. Je ne sais pas. Et en même temps, quand tu vois Gilles, on a tendance de plus en plus à sanctionner rapidement ces directeurs techniques qui ne donnent pas des résultats. Je cite FX de Maison chez Williams, il est parti l'hiver dernier alors que la voiture
Elle
n'a
pas l'air si mal que ça, clairement.
Tout à fait, tout à fait. Chez McLaren, on n'a pas hésité à remercier James Key qui a fait la voiture de cette année qui fonctionne quand même assez bien. Ils ont su la bonifier par des évolutions, mais lui, il est parti. Il est parti maintenant chez Sauber Audi. Chez Mercedes, on a fait sauter aussi Mike Elliott, on l'a rétrogradé au rang de numéro 2 en avril dernier, on a rappelé James Allison. Et puis chez Alfa Romeo, eh bien, on prépare l'arrivée de James Key le 1er septembre et c'est Yann Monchot qui fera un pas en arrière. Donc ça veut dire que là, c'est 4 directeurs techniques qui ne seront plus en poste à l'automne prochain. Et on se demande quel est le prochain sur la liste. Sachant qu'il y a quelqu'un qui
Il y en a quand même un qui a un gros bagage technique et qui, à ma connaissance, est toujours...
Et managérial.
Voilà, oui, en recherche d'un poste, c'est Mattia Binotto. Tout le monde pense, évidemment, à l'ancien patron de la Scuderia. Mais il est presque trop qualifié, Mattia Binotto. Comment tu veux mettre Mattia Binotto sous la responsabilité d'un Bruno Famin, d'un Otmar Szafnauer ? C'est pas possible. Tu peux pas faire ça.
Exactement.
Et c'est peut-être la problématique d'Alpine.
Mattia Binotto sait tout faire et son problème, c'est qu'il veut tout faire. Il veut tous les pouvoirs. Moi, je trouve que là où il a été le plus efficace en tant que directeur technique,
oui,
il a remis des clairs, la Ferrari en 2022, il les a remis sur le devant de la scène, ça c'est en haut des podiums. Et c'est là-dessus qu'il faudrait vraiment lui faire une proposition. Et comme tu dis, s'il vient, c'est surtout que quelqu'un a décidé de le recruter. Et pour moi, il n'y a que Luca De Meo qui peut dire, bon, maintenant, il faut une pointure. Parce que c'est vrai que quand tu es dans une organisation où tu veux garder ton poste, je pense en particulier à Otmar Szafnauer, il dit, maintenant, si avant j'avais quelqu'un au-dessus de moi, maintenant, j'ai les coudées franches.
Oui.
Voilà, il est le boss dans l'écurie, mais Otmar Szafnauer, c'est plus un administratif, c'est quelqu'un qui a plus de 20 ans d'expérience, 25 ans en Formule 1. Et c'est quelqu'un qui connaît très très bien les rouages, la politique, etc. C'est
lui les
qui
sponsors.
Mène les recrutements aussi, c'est ça, de personnel. Mais je trouve que là, s'il ne se met pas à chercher ou n'essaie pas de recruter quelqu'un de l'envergure de Mattia Binotto, c'est que.
Mais non, mais
il y a un oubli quelque part.
Je vais te dire le fond.
Problème, je dirais.
Je vais te dire le fond de ma pensée. C'est le prochain domino. Tu enlèves Otmar Szafnauer et tu mets Mattia Binotto. Et c'est tu peux pas mettre Mattia Binotto en dessous Otmar Szafnauer. Tu peux pas les directions bicéphales, ça n'existe pas parce que tu pourrais très bien dire Mattia Binotto et techniquement il est très fort, mais on l'a vu que parfois il était un petit peu maladroit sur certains aspects. Donc on met les deux. Non, ça marche pas, ça peut pas marcher. Donc on oublie ça. En fait, quelque part, il faut attendre que Otmar Szafnauer paye le manque de performance de la voiture pour éventuellement libérer la place pour Mattia Binotto et que là, là ça, ça redémarre. Mais ça veut dire que le temps passe et que pendant ce temps-là, cette équipe vivote.
Et Mattia Binotto, c'est un expert en châssis, mais c'est aussi un expert en moteur. N'oublie pas.
Oui.
Et c'est
et on a un problème moteur. Et on a un problème moteur chez Alpine.
Tout à fait. C'est lui qui a rétabli en fait Ferrari aussi, là, qui a redonné de la puissance à Ferrari après cette histoire de oui. moteur un peu foilaté fin 2019. Ils étaient redescendus mais très très bas. Et je crois qu'ils avaient 70 chevaux de retard. Ils les ont récupérés grâce à lui. Et là, effectivement, il y a un problème maintenant qui se pose.
Alors là, on parle de 30 chevaux hein, de déficit pour Alpine par rapport à la moyenne du plateau. À tel point, c'est que il doit y avoir là une commission F1 qui doit se réunir à la fin du mois de juillet. C'est normal. Hein, il y a pas mal de décisions à prendre pour les saisons à venir, notamment les couvertures chauffantes, des choses comme ça. Et on va parler de savoir si on peut autoriser, alors que les moteurs sont gelés en théorie jusqu'en 2026, savoir si on va autoriser Alpine à faire une évolution moteur, mais une évolution clairement sur la performance du moteur. Jusque-là, on avait dit on fait un moteur performant et on aura des problèmes de fiabilité, on assume, on le fiabilisera dans un deuxième temps.
C'est ce qu'ils ont fait l'année dernière.
Et on s'est fait un petit peu avoir du côté de chez Alpine dans ce jeu-là, parce qu'on a bien vu que les autres constructeurs, sous couverture de faire de la fiabilité, faisait aussi de la performance. Là aussi, on a été un petit peu gentil. On a été gentil sur l'affaire Piastri, on a été gentil sur l'histoire des moteurs. Il faut mettre quelqu'un qui soit un petit peu plus, je sais pas comment dire, un petit peu plus malin, un petit peu plus roublard, je sais pas. Mais en tout cas, faut y aller, exploiter les zones grises et essayer quand même de faire avancer, parce que là. Enfin, c'est la catastrophe. On est à zéro point sur les deux derniers Grands Prix pour Alpine. Hein. Il faut tirer la sonnette d'alarme. On est sixième au classement, 47 points. Il y a 36 points d'avance sur Williams. Mais on a été déclassé chez Alpine. On ne parle plus de la bagarre pour la quatrième place au classement des constructeurs. On ne parle plus du duel avec McLaren. C'est terminé.
Alors, Zaffnauer a dit, si nous ne pouvons pas atteindre cet objectif de la quatrième place, l'objectif devient d'avoir la quatrième voiture la plus rapide en fin de saison. Oula.
Oui, mais pour l'instant, ils sont, très loin du compte.
Qu'on parle trop, il faut travailler, il ne faut plus annoncer d'objectif ni rien, il faut arrêter de rêver. Et d'ailleurs, cet objectif des 100 Grands Prix, là, qui était un petit peu bizarre. Parce
oui,
que,
on l'a rallongé.
On l'a rallongé, alors je ne sais pas pourquoi.
parce qu'on s'en a bien vu qu'on n'y arriverait pas.
Tout à fait. Mais attends, parce que ce qui est incroyable, c'est qu'on nous annonce ça fin 2021, donc 100 Grands Prix, ça nous mène à peu près à fin 2025. Et là, 120, ça nous met à fin 2026. Audi, ils arrivent en 2026, ils disent, nous, on veut la victoire en 2028. Trois saisons, c'est plié.
Rien ne t'empêche de dire ce que tu veux.
Je te rappelle l'objectif de Renault quand ils reviennent en 2016, on veut être champion du monde en 2020. Voilà.
Ça n'a pas marché. Mais tout le monde veut être champion du monde. On peut ne pas être champion du monde, mais au moins être dans la course. Là, le problème, c'est que l'évolution, elle se fait vraiment à contresens et qu'on est en train de dégringoler du côté de chez Alpine.
C'est ce qu'essaie de faire maintenant Bruno Famin, plaider pour une révision du moteur qui serait complètement légale. C'est-à-dire qu'on ne fait pas.
Non, on ne fait pas ça dans son coin, c'est autorisé.
Exactement. Parce que, alors déjà, c'est quelqu'un qui travaille à la FIA, qui connaît tous les rouages. Ça, c'est vraiment un avantage là-dessus. Et il profite en fait d'une disposition réglementaire qui a été faite quand on a avancé le gel des moteurs en 2022.
Il y avait
par nécessité de réduction des coûts, par demande express de Red Bull qui était lâchée par Honda. Ils disaient, Honda a les propriétés du moteur, nous, ils partent et on les empêche de partir, mais on ne va pas être capable tout seul de développer le moteur, donc il faut tout geler. Et dans cet accord, il y avait eu quelque chose de précis qui avait été mis noir sur blanc et qui va servir aujourd'hui à Renault, qui est le motoriste
d'Alpine,
c'est que si un moteur avait 1% de déficit par rapport au meilleur moteur de la place, il avait droit à un aménagement de ressources, de modifications supplémentaires pour regagner de la puissance. Voilà.
Alors, c'était pour rassurer les motoristes.
1%, c'est gigantesque. Ouais. C'est ça qu'il faut bien se mettre ça dans la tête. Pour bien expliquer ce que c'est, sur un chrono d'un tour de 1 minute 40, eh bien, une voiture qui est 1% moins performante, elle va être à 1 seconde, ce qui est gigantesque. C'est un trou béant. Bon. Et là, en termes de puissance, c'est pareil. Et là, on est au-delà du pourcent, de toute façon, avec 30 chevaux à récupérer. Alors, ils ont trouvé déjà un soutien spectaculaire, oui. Inattendu.
Ah oui, Christian Horner.
Christian Horner. Alors qui a quand même de la mémoire et qui se souvient qu'effectivement, chacun avait fait un geste pour geler les moteurs, pour que ça arrange, parce que la menace, hein, c'était que Red Bull parte carrément de la Formule 1. Ouais, donc ouais. Ils avaient mis les choses noir sur blanc.
Il doit y avoir une explication.
C'était un peu du chantage, mais voilà. Ouais. Mais voilà, on y vient. L'explication, c'est que Christian Horner dit ouais, ça serait pas mal de faire ça, et à condition qu'on mette toutes les datas de puissance de tous les moteurs, ce serait fascinant. Il perd pas le nord.
Ok, d'accord. Voilà. Merci, Christian. D'accord, tout à fait.
Donc, il attend ça avec impatience. Ouais. Il dit, mais oui, on peut le faire. Voilà, à condition que je sache ce qu'il y a exactement dans le moteur Mercedes.
Et confiance.
Dans le moteur Ferrari. Donc, il pense, c'est forcément, rien n'est gratuit en Formule 1. Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui paye quelque part.
Bon voilà, en tout cas pour vous dire que nous on est supporters hein, de cette équipe Alpine.
On a envie que ça marche terriblement, ouais, c'est l'équipe de France de toute façon, mais on est un peu désespéré, on est dans un entre-deux tout le temps, on n'arrive pas à passer le palier. Là tu vois, je regardais par exemple les résultats en qualification l'année dernière, position moyenne d'Alonso sur la grille 8,3, Ocon 11, cette année Ocon 9,2, Gasly 11. On est dans la même zone. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'a pas avancé.
Non, clairement. Voilà ce qu'on pouvait vous dire. Donc, après ce Grand Prix de Hongrie, on a encore été très, très bavard, alors que ce n'était pas le Grand Prix le plus spectaculaire.
On va pas se refaire maintenant.
Bon, spectaculaire, ça peut être du côté de Spa le week-end prochain avec les premiers essais libres vendredi à 13h30. Qualification à 17h, attention, un week-end sprint. La qualification pour la course sprint, ça sera samedi à 12h. Et la course sprint à 16h30, le Grand Prix lui sera à 15h. Attention aux prévisions météo. Alors effectivement, selon les sites, on annonce plus ou moins de pluie. Un petit peu, mais pas trop. On a des mauvais souvenirs de la pluie.
Oui, clairement. comme tout circuit, ça peut être potentiellement dangereux. On l'a encore...
Oui, expérimenté trop récemment. Voilà, mais évidemment, on reviendra sur tout ça le week-end prochain. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve donc la semaine prochaine pour faire le point avant la trêve, après ce Grand Prix de Belgique. Et d'ici là, Stéphane, on coupe le contact.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with Host Red sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book Host Red sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.